Midi 22 minutes du côté de Kick au Saguenay. Je vous souhaite une bonne année 2021, qu'elle soit assurément meilleure que 2020, avec la résilience, avec le courage, avec la patience, de l'endurance, name it, je vous l'offre. Bon, faire la job qu'on fait en radio, c'est la job la plus fun au monde et c'est probablement, dans certains points, la plus facile. Critiquer, c'est crime. Être payé pour critiquer, donner son avis, c'est une belle job, hein, s'il vous plaît. Puis même en politique, des fois, les députés, dans l'opposition, ça peut être facile. On est payé puis on est dans l'opposition. Fait qu'on dit « Monsieur le Président, ça n'a pas d'allure. » Puis... Mais des fois, à un moment donné, il faut avoir un peu de jugement, il faut avoir un peu de pragmatisme, puis il faut être un peu conséquent avec ce qu'on dit. Et je me souviens d'avoir parlé avec notre prochain invité. Moi, je me souviens d'y avoir parlé au mois d'avril, puis c'était le début de la PCU, puis je disais à ces gens-là, qu'est-ce que vous allez faire? Justin est en train d'ouvrir le coffre au trésor, puis il va en donner à tout le monde, puis ça n'a pas d'allure. Et notre prochain invité disait, ou me disait, écoute, on est dans l'opposition, mais on comprend qu'il faut aider les Canadiens, il faut aider les Canadiennes. Donc, il y a une partie de ce que Justin Trudeau fait qui est correct. On ferait probablement la même affaire. Maintenant, on va laisser passer le temps et on verra. La PCU était ce qu'elle est, un filet social pour les Canadiens et Canadiennes qui n'avaient bien de besoin. Mais on sait aussi qu'il y a eu des dérives. Et dans le temps des fêtes, les gens ont fait des gorges chaudes à un niveau stratosphérique sur l'histoire des Canadiens et Canadiennes qui allaient soit voir leur famille en Europe, soit dans le sud, sur la plage, whatever, qui sortaient du pays et qui, lorsqu'ils revenaient pour se mettre en quarantaine, avaient droit à une certaine aide financière, le fameux 1 000 $ pour les revenus de vacances. Maintenant, ça n'a probablement pas de bon sens dans cette disposition-là, mais est-ce qu'on aurait pu caler à shot avant? Est-ce que l'opposition aurait dû lever la main avant? Est-ce que le Justin Trudeau, à l'intérieur même de son cabinet, aurait dû dire... C'est correct pour ceux qui se mettent en quarantaine, mais en même temps, on n'avait pas prévu ça comme ça. J'ai hâte d'entendre pour une toute première fois les gens du Bloc en 2021. On a le député Mario Simard qui est au bout du fil. Monsieur Simard, bonjour.
Salut Fred, ça va bien?
Yes, bonne année.
Oui, bonne année toi aussi, à tous tes auditeurs aussi. T'as eu des belles fêtes de fin d'année?
Ah, écoute, j'ai mis une paire de pantalons pendant 10 jours. Mes culottes de jogging, je les ai usées à corde comme jamais.
Ah, on a fait la même chose.
c'était de bon ton, mais comme je le disais puis en introduction, on s'en était parlé au printemps en disant, moi, j'étais un peu sénant, j'ai dit, Trudeau va nous vider les coffres du gouvernement, puis il est en train d'en donner à tout le monde, puis bon, vous m'aviez calmé le jeu un petit peu, puis c'était correct. Maintenant, on a pensé quoi de cette situation-là dans le temps des fêtes?
C'est une situation exceptionnelle. Là. En temps de pandémie, là, il faut se dire la vérité. Ce qui est arrivé avec le fameux 1 000 $ aux voyageurs, quand on a passé en septembre, là, ça a changé. Là.
Oui.
On a voté sur C4, et puis ça a été un vote unanime. Là. Il n'y a personne qui l'avait vu, cette possibilité-là, que des voyageurs utilisent une prestation qui s'adresse aux travailleurs qui doivent s'isoler pour faire leur confinement. Il n'y a personne qui l'avait vu. Là, je ne tirerais pas la pierre au gouvernement en disant « ils auraient dû le voir avant ». Nous aussi, on ne pouvait pas le prédire, ça. Le problème, il est ailleurs. Le problème, il tient du fait que le gouvernement aurait dû interdire les voyages. Tu sais, en Europe et aux États-Unis, tu sais ce qu'ils ont fait, puis c'est beaucoup plus intelligent que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ils ont obligé les compagnies aériennes à rembourser les voyageurs qui s'étaient achetés des forfaits voyage et qui pourront pas faire à cause de la pandémie. Nous, au Canada, on n'a pas fait ça. C'est ce qu'on aurait dû faire, de sorte que quelqu'un qui s'est acheté un voyage de bonne foi, peut-être il y a un an et demi, là, mm-hmm. tu sais, il y a des gens qui ramassent beaucoup de sous avant de s'acheter un voyage dans le sud, ben lui, cette personne-là se verrait rembourser son voyage. Ça, c'est ce que le gouvernement aurait dû faire. Et il aurait dû sortir rapidement.
Oui, mais M. Simard, attends, je veux juste, avant qu'on tombe dans le populisme facile, parce que c'est pas ce que vous faites, mais je veux juste pas qu'on nous accuse de le faire. Il n'y a pas une disposition dans la Charte des droits et libertés qui nous garantit une liberté de mouvement, et c'est un peu pour ça qu'on n'a pas été capable d'empêcher les gens de voyager?
Fermer les frontières? Ben, ouais, d'une certaine façon, mais je veux dire, devant une pandémie, là, tu peux mettre en place des règlements qui font en sorte de limiter les voyages qui sont non essentiels. Il y a beaucoup de choses qui sont limitées. T'sais. On peut pas rencontrer notre famille. L'exemple que je donnais à plusieurs personnes quand on a vu le truc 1 000 $ aux voyageurs, si mes parents qui sont isolés viennent chez nous pendant le temps des fêtes, eh ben, ils pètent ma bulle familiale et puis je m'expose à une amende de 1 500 $. Hein? Donc, ma liberté est diminuée, je le consens. Puis c'est normal parce qu'on a des efforts à faire. Le voyageur, d'un autre côté, ben, il peut avoir un soutien de l'État pendant deux semaines qui à hauteur de 1000 $, ça marche pas. À partir du moment où on a vu ça, nous, on a réagi puis on a dit, il faut gommer cette brèche-là. Ça peut, ils ont peut-être été un peu lents à réagir parce que ça envoyait un mauvais signal. Et puis, je suis sûr que ça a encouragé certaines personnes à se dire, ben, je vais le faire, mon voyage. En arrivant, de toute façon, ma quarantaine, je pourrais avoir le soutien du gouvernement fédéral. Il fallait agir tout de suite. Là où j'ai vu que Pablo Rodriguez est sorti en disant qu'il allait gommer ça, cette brèche-là qui était dans la prestation qui devait être offerte aux travailleurs qui sont malades, qui doivent s'isoler. Je ne sais pas si ça va se faire par voie de décret ou si on devra même... on a parlé ce matin, Alexis et moi, Yves-François. Yves-François a dit, s'il faut demain matin qu'on rappelle les députés à Ottawa pour changer la loi, fin, c'est ça qu'on va faire. Je pense que ça va se régler, somme toute, assez rapidement. Ça envoyait un mauvais signal à la population. Ils auraient pu être un peu plus proactifs que de répondre aujourd'hui. Ils auraient dû répondre samedi. Parce que, clairement, c'était non-sens. Devant le tollé, hey, j'ai reçu, si tu savais, j'ai passé mon matin à rappeler des commettants qui m'ont envoyé des messages pour me dire comment ils étaient fâchés. T'sais. Ah oui. Et eux, ils ont fait les efforts, puis là, ils voient des voyageurs un peu inconséquents qui s'en vont être récompensés. Je comprends tout à fait. Là.
Et ça, c'est la job sale un peu. Pas la job sale, mais c'est un peu le côté ingrat d'un député. Même dans l'opposition au pouvoir, vous devenez à ce moment-là des paratonnerres pour la frustration publique. Puis ça, je le comprends très bien. Mais sincèrement, M. Simard, je suis un peu surpris que de prendre tous les députés libéraux fédéraux, bloquistes, les gens du NPD, les gens des conservateurs, puis il n'y a pas personne dans l'opposition à un moment donné qui a levé la main en septembre en disant « On comprend cette prestation-là, mais on devrait peut-être mettre un petit addendum, un petit annexe pour les gens si jamais sont... » Il n'y a pas personne qui a levé la main.
Mm-hmm. Mais non, mais on n'y a pas pensé. Puis tu sais, tu ne peux pas tirer la pierre au gouvernement. Il n'y a personne qui a pensé. Puis on a voté ça rapide aussi, là. Si, juste te remettre dans le contexte, fin septembre...
Plusieurs prestations,
oui. Ouais. Ça a passé sous bâillon. Il y avait plusieurs prestations là-dedans. Le temps d'étude n'a pas été élevé, mais il n'y a personne qui a levé le flag. Mais au point de vue de l'action gouvernementale, c'est fréquent, ça. T'sais, tu peux pas tout réfléchir. C'est quand tu arrives face à la situation que tu dis « Oh, là, faut que j'agisse rapidement puis que je corrige le tir. » C'est ce qu'on a demandé au gouvernement, ce que je comprends. M. Rodriguez, c'est quand même le leader, le lieutenant au Québec, là, et puis le leader du gouvernement. Donc, quand il parle, là, je pense qu'il met en cause le gouvernement. Là, ce que je comprends de ce qu'il a dit, c'est que ça allait être modifié. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que il y ait des signaux beaucoup plus clairs pour dire aux Québécois et aux Canadiens, ne faites pas de voyage inutile. La première vague, là, si tu te rappelles, Fred, là,
ben oui.
Elle a été déclenchée par quoi? Par les voyageurs
entre autres.
Qui revenaient de la semaine de congé, là, la semaine
Spring
de congé
break,
d'école.
La semaine de relâche.
Oui. Ben oui, le plus gros de la crise est venu de ces gens-là.
Mais à ce moment-là, c'est ça. Au printemps, les gens la relâchent. Puis je me souviens de François Legault en passant, qui au début, son axe de communication, c'était « Caroline, au Québec, on n'est pas chanceux, on est frappé plus durement parce que notre semaine de relâche était dans le mauvais timing. » Mais ça, à ce moment-là, écoute, on ne peut pas blâmer. Au printemps, mais on aurait dû prendre des leçons un peu de ce qui s'est fait. Mais moi, c'est ce qui m'a déçu.
C'est ça, on aurait dû se dire, ben là, pour les voyages des fêtes, on le sait qu'est-ce qui s'est passé en mars dernier, ben pour la période des fêtes, resserrons à tout le moins les exigences pour les voyages, et puis interdisons les voyages non essentiels. Je veux dire, c'est pas fondamental là, d'aller s'asseoir sur une plage au Mexique. Là. C'est,
ben, mais,
je comprends
en même
pour
temps,
des travailleurs. Mais...
En même temps, M. Oui. Simard, il y a... Je vais reprendre une expression qui est un peu galvaudée, que c'est un peu le touriste tata qui est allé au Mexique, c'est peut-être l'éléphant dans la pièce, mais il y a beaucoup de gens dans le temps des fêtes, M. Simard, que vous savez, qui vont voyager pour aller voir, non pas le sable blanc, mais voir leur famille dans leur pays d'origine. Ces gens-là sont aussi applicables que le touriste tata, et ça, on les a pas blâmés, mais c'est le même principe. Écoute, t'as peut-être bien un père en Inde, t'as peut-être bien une mère en Colombie, mais c'est les mêmes principes qui devraient s'appliquer que pour le touriste tata. Et ça, on l'a pas dit beaucoup, mais il y a beaucoup de gens dans le temps des fêtes qui vont voir leur famille.
Ouais, mais là, chacun vit avec sa conscience, là. Je peux comprendre qu'il y a des cas aussi exceptionnels où,
ben, moi, l'exception,
des gens qui sont
pas,
en fin de vie, qui sont en fin de vie. Tu sais, tu peux comprendre ces choses-là. Mais il faudrait définir ce qu'on entend par un voyage non essentiel. Mais clairement, pour moi, aller sur une plage, c'est un voyage non essentiel. Mais je comprends ce que tu veux dire. Donc, le gouvernement aurait dû resserrer ses règles. Tu sais, tout le monde s'entendait pour dire que la période de quarantaine, que t'es un agent de l'agence frontalière qui t'appelle ou de la GRC pour te dire « es-tu bien chez vous? » C'est pas suffisant. Il aurait fallu mettre en place des mesures beaucoup plus restrictives pour s'assurer, je sais pas si que les gens respectent la quarantaine. Je sais pas si tu as vu là hier TVA, il se rendait à l'aéroport et puis ce que tu voyais c'était catastrophique là. Un gars qui dit j'ai pas le temps de vous accorder une entrevue, je m'en vais au resto. Je veux dire là, à un moment donné là, la bêtise humaine, il faut l'encadrer par le processus politique puis mettre des règles claires. Puis c'est la critique que j'adresse au gouvernement. C'est vrai qu'on ne l'avait pas vu. Il n'y a personne qui l'avait vu en septembre. Ça, c'est la possibilité qui nous est éclatée au visage samedi, là. Mais maintenant, le gouvernement aurait pu être beaucoup plus proactif sur d'autres dimensions qui auraient fait en sorte de limiter les voyages.
Ah, ça, Cibar,
malheureusement, ils ne l'ont pas fait.
M. Cibar, avant qu'on se quitte, je veux savoir, le bloc 2021, ça va s'enligner sur quoi? Avez-vous déjà des enlignements? Avez-vous fait du zoom dans le temps des fêtes avec M. Blanchette? De quoi vous avez appris?
Moi, je repousse mon gros morceau, là. En mars dernier, j'ai commandé avec mon fidèle écuyer,
Alexis,
le député de Lac-Saint-Jean, oui. Avec Alexis, on a commandé une étude sur le potentiel forestier, puis tous nos collègues ont embarqué. Donc, on a fait mesurer le potentiel forestier de l'ensemble du Québec.
Okay.
Et en termes d'emploi, parce que tu sais, le secteur forestier, là, c'est probablement le meilleur secteur pour vivre la transition énergétique. À partir de la biomasse, tu peux tout faire. Tu peux remplacer de nombreux produits du pétrole à partir de la biomasse, des bioplastiques, des biocarburants. Les Européens font ça. Nous, on est idiots, on est assis sur la ressource, puis on le fait pas. Donc, nous, on a commenté cette étude-là, mais mars dernier, c'est la première vague. On s'est dit, avant de faire ces annonces-là, on va attendre d'avoir une conjoncture plus propice. On a repoussé ça en septembre. C'est le début de la deuxième vague, donc tu vois comment on est chanceux. Mais ça va être le gros morceau de notre rentrée politique. Et je peux te dire que sur un horizon de 10 ans, au Québec, et surtout pour l'économie des régions, c'est environ 16 000 emplois sur un horizon de 10 ans. Si on prend cette tangente-là, d'utiliser la filière bois comme étant peut-être le secteur économique le mieux positionné pour vivre non seulement la relance, mais la transition énergétique. C'est que plus tu utilises du bois dans la construction, là, plus tu séquestres du carbone. C'est que du bonbon. J'ai hâte de présenter ça. Peut-être qu'on pourra s'en reparler plus tard, mais ça va être un gros morceau. Puis si, tiens, tu te rappelles, notre campagne publicitaire de Noël, c'était « On touche du bois pour 2021 », donc ça allait de pair avec ça.
Mais il va falloir valoriser ça comme du monde, parce que le secteur forestier a eu des heures sombres dans la région pendant des années. C'était même vacillant par moments. On est loin des vieilles gloires, des techniques anciennes. Il va falloir qu'on nous le vende avec une approche moderne et une approche de plus-value intéressante. Parce que moi, il y a des gens qui nous écoutent présentement, Mario, qui disent « Le secteur forestier a eu des bien plus beaux jours que présentement. Vous êtes en train de nous dire que c'est le futur. »
Ça va revenir.
Je l'espère. Je l'espère.
Tu vois, regarde, il y a un projet de biochar là, présentement, là. Le biocharbon à Jonquière qui va être assez intéressant. Et si tu voyais l'innovation qui se fait là-dedans, moi j'ai les deux mains là-dedans depuis à peu près un an, là. L'innovation qui se fait dans le secteur forestier, c'est terrible. La seule affaire, c'est qu'on n'a jamais le soutien du gouvernement fédéral. Il se consacre à ses filières habituelles, l'automobile en Ontario et puis filière gazière, pétrolière dans l'Ouest canadien. Il va falloir qu'il nous en donne un peu. Tiens, je vais te finir avec ça, là. Je vais te finir avec la statistique qui tue. Dans les quatre dernières années, le gouvernement fédéral va avoir investi 24 milliards de dollars pour soutenir la filière gazière pétrolière. Dans ces mêmes quatre années-là, le gouvernement fédéral va avoir investi 950 millions pour soutenir l'industrie forestière de l'ensemble du Canada. Mais quand tu fais le découle de ces 950 millions-là, tu te rends compte qu'il y a 75 % de cette somme-là que ce sont des prêts. Donc, c'est de l'argent remboursable. Mais si tu regardes du côté de la filière gazière pétrolière, là, tu as un 17 milliards francs qui est l'achat d'un pipeline. Quand je te dis qu'en ressources naturelles, il y a deux poids, deux mesures, là, c'est ça qu'on veut faire. Puis on veut faire en sorte que le gouvernement fédéral nous offre le même type de soutien qu'offre la filière gazière pétrolière.
Pour être bien honnête, c'est pas de souhaiter la mort du pétrole en Alberta, c'est pas de souhaiter la mort de l'industrie économique en Ontario, mais c'est peut-être de souhaiter un meilleur repartage. Exactement. On s'entend là-dessus. Monsieur Simard, je suis content de vous en parler. Vous êtes mon premier député à qui je parle en début d'année. C'est bon signe.
Bon, ben c'est bien ça. C'est toujours les meilleurs en premier.
C'est bien correct. Député du Bloc québécois, Monsieur Mario Simard, merci.
Salut,
bye-bye. Chose certaine, à 11h30, à midi 36, puis c'est intéressant comme discussion parce que Ils l'ont avoué. Ils l'ont avoué. Ni eux, ni le parti au pouvoir, ni les conservateurs, ni les renifleurs de pète du Parti libéral, les NPD, qui font rien. Oui, c'est beau. C'est un terme fort, renifleur de pète, là, mais allez voir la définition. Personne n'a collé la shot sur la prestation pour les gens qui revenaient de voyage, surtout pour des voyages d'agrément. Ils sont des centaines de députés. Et parce que ça s'est fait vite, il n'y a personne qui a levé la shot. Et ça a donné un tsunami médiatique dans le temps des fêtes. Personne ne l'a vu venir, personne n'a collé la shot. C'est assez spécial. Chose certaine, ce qu'on retient aussi, c'est qu'on ne s'entendra pas sur la définition d'un voyage essentiel. Mais ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou aussi. Des gens nous disent, ouais, M. Simard dit que un voyage essentiel à l'extérieur est peut-être justifié. Ouais, mais je veux dire, il y a des gens au Québec qui n'ont pas vu le peuple eux-mêmes, même mourant, parce que il n'y avait pas le droit. Tu sais, un voyage essentiel, à la limite, à l'extérieur du pays, là. Si ton père, ta mère habitent en Colombie, mettons, je dis à Colombie, mais ça pourrait être en France, ça pourrait être en Angleterre, s'ils sont vraiment sur leurs dernières heures, s'ils sont morts, je peux comprendre. Mais en dehors de ça, non. Et pourtant, il y a bien des gens qui ont quitté le pays. C'était pas juste pour les plages. Il y a beaucoup de monde. À Dorval, à l'aéroport de Montréal, des derniers jours, c'était pas loin d'une centaine d'avions qui landaient, qui atterrissaient par jour. Oui, il y avait du monde du sud, mais il y avait du monde qui sont allés voir leur famille aussi. Mais j'ai inclus tout le monde là-dedans. Et évidemment, ils pouvaient le faire, ils avaient le droit. Mais est-ce que c'était intelligent dans tous les cas? Maintenant, là, c'est élastique. Il est 12:38. Au retour, je vous fais entendre quelque chose qui était peut-être prémonitoire.
95.7 Saguenay. On revient tout de suite après la pause. 12:38.